Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du cinéma. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts à retourner au cinéma, malgré les quelques restrictions auxquelles nous avons encore droit. J'ai sélectionné donc quelques films encore ce mois-ci. Je vais vous parler de plus de films que le mois dernier, hein, ce mois-ci. On reprend toujours doucement, c'est un peu timide encore. Nous allons commencer avec des sorties du 16 septembre. Voilà, je saute directement au 16 septembre avec pas moins de 3 documentaires qui sortent dans les salles ce jour-là. En fait, il y en a 4, mais moi j'en ai vu que 3. Tout d'abord, il y a Honeyland, une production macédonienne de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska. Leur long métrage Honeyland donc obtient les prix de la meilleure cinématographie et Impact for Change, ainsi que celui du jury dans la section documentaire Cinéma du Monde au Festival de Sundance. Alors, ce film s'avère particulièrement d'actualité avec la situation écologique du moment. Les deux réalisateurs suivent Atids, une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles pour préserver le fragile équilibre entre l'homme et la nature. Atids vit seule avec sa mère jusqu'à ce qu'une famille vienne s'installer juste à côté de chez elle. Une famille dénuée de manières qui s'occupe à peine de ses enfants, gère mal leurs bêtes car ils possèdent du bétail. Et surtout, ils veulent récolter du miel pour se faire de l'argent. Honeyland, c'est un film qui bénéficie d'une belle image, de plans contemplatifs, et il y a des beaux plans de paysages des montagnes macédoniennes. Et à travers ces personnages perdus au milieu des montagnes, ce film propose un regard critique sur la société actuelle. Les deux cinéastes montrent le pillage des ressources naturelles, la volonté de s'enrichir sans prendre en compte le fragile équilibre de la nature. On peut aussi y voir une critique assez virulente du capitalisme. La mise en scène se révèle plutôt sophistiquée, un peu précieuse, un peu contemplative. Parfois, la caméra pénètre dans l'intimité d'Atids, filme ses relations avec sa mère, montre à quel point elle fait preuve d'abnégation. Par contre, elle se met en retrait quand elle filme la famille voisine, comme si elle ne voulait pas les juger. Seulement, le choix des séquences montées implique un regard particulier et on est alors atterré ou choqué par le comportement de ces individus. Des comportements qui prêtent aussi parfois à rire tellement ils se montrent ridicules. À certains moments, il y a clairement de la mise en scène, des épisodes de la vie d'Atids sont rejoués pour la caméra et on peut être un peu gêné par ce parti pris qui peut être assimilé, peut-être un manque de pudeur. Pourtant, ce sont aussi des passages qui sont importants dans la narration du documentaire, dans le propos du film, parce qu'il montre aussi l'isolement du personnage, sa détermination. Et Honeyland est donc un film sur l'abnégation, sur la façon d'appréhender le monde et le rapport que chacun entretient avec la nature. Nous allons quitter la Macédoine pour nous rendre maintenant au Mali, pays dont on parle beaucoup depuis quelques années parce qu'il est en proie aux djihadistes, aux violences intercommunautaires et où également le pouvoir en place est violemment remis en question ces dernières semaines.
Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Dramane. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Dramane me parla du groupe. La Smaravias de Mali.
C'était fait à Cuba.
À Cuba, ça ?
À Cuba.
C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique.
Fidel, il est venu vous voir.
Il est venu comme ça vers 2h du matin.
En fait, c'est le Tché
qui a fait l'interprète.
Ah ouais, nous.
Et là, le premier groupe africain afro-cubain était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique.
J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça.
Ça a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique.
Au revoir.
Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Africa. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravias.
Le film qui nous intéresse ici n'évoque rien de tout ça, car il s'agit d'un documentaire sur la musique intitulé Africa Mia. Prévu le 7 septembre dans les salles, il est signé Richard Minier et Édouard Salier. Richard Minier est un auteur et réalisateur de documentaires et de séries qui développe au sein de sa société de production plusieurs projets autour de la musique et du voyage et sur les tendances artistiques en Afrique. Également compositeur et producteur de musique, il a produit les albums de Gero, Marathonians, l'album Bossa Nova de Pauline Croze et les nouvelles versions de l'album Africa Mia des Maravillas de Mali. Il a travaillé en Jamaïque avec la star du reggae Toot and the Metals, avec Edwin Starr de la Motown et vécu à Buenos Aires où il a organisé de nombreux événements autour de la musique. En 1999, il se trouve à Bamako pour le passage à l'an 2000. À ce moment, il entend parler des Maravillas de Mali, le premier groupe afro-cubain qui s'est formé après que 10 musiciens maliens aient débarqué dans la Havane de Castro pour y étudier la musique en pleine guerre froide en 1964. Richard Minier décide alors de partir à la recherche de Bonkana Maïga, son chef d'orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende. La réalisation d'Africa Mia s'étale donc sur presque 20 ans, 20 ans durant lesquels Richard Minier a tenté de retrouver les différents membres du groupe, de les réunir pour que les Maravillas de Mali jouent à nouveau de la musique ensemble. Le réalisateur-producteur met la main à la pâte, tourne lui-même certaines images avec les différents supports propres aux différentes époques. Non seulement Africa Mia raconte une quête, mais il est aussi le reflet des époques qu'il évoque, des années 60 aux années 2010. Il raconte avec dynamisme le destin de ces musiciens séparés par les aléas de la vie, mais aussi par les crises politiques que traverse déjà le Mali. Le film diffuse beaucoup d'informations à travers de nombreux entretiens qui se croisent, se révèlent très rythmés, et le montage est sec et haletant. Il y a cependant quelques maladresses, quelques images qui ont pour but de susciter l'émotion qui sont un peu de trop, qui peuvent manquer un peu de pudeur. Camilla aussi montre un peu les relations qui peut y avoir entre le Mali et Cuba, entre l'Afrique et Cuba, parce que plusieurs Africains de différents pays d'Afrique se soient rendus à Cuba pour y passer leurs études grâce en partie à la révolution cubaine. Surtout, Africa Mia est un film sur la persévérance, la volonté de vouloir faire vivre ou revivre une culture, ici un groupe de musique malgré l'énergie et le temps dépensé.
Ha ! Chef Fatimata.
Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami.
Aha, Fatimata.
Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata.
Rester dans un univers plutôt musical, mais on va encore aller dans un autre pays. Cette fois, on retourne en Europe. On va en Roumanie. On va en Roumanie avec Trio d'Anna Dumitrescu. C'est le quatrième film d'Anna Dumitrescu qui est une réalisatrice franco-roumaine. Et là, elle réalise un film en Roumanie. Elle s'attache à filmer un couple un peu particulier, hein, Georges et Sorina, qui forment un trio parce que c'est une histoire d'amour entre ces deux personnes, mais aussi avec un violon. Voilà, Georges est joueur de violon, et à travers le portrait de cet étrange trio, Anna Dumitrescu dresse un portrait de la Roumanie actuelle et de la Roumanie 30 ans après. Après la chute du communisme, comment le pays a évolué, comment ces personnes arrivent à vivre de leur art, ou à vivre parce qu'ils sont roms aussi, donc c'est un film sur la situation des roms en Europe, en Roumanie. C'est un film qui est tourné entièrement en noir et blanc. Il n'y a pas d'interview, en fait. C'est une longue interview qui fait la voix off. C'est Georges qui raconte un peu leur histoire. Donc c'est une longue interview de presque une heure et demie. Et donc c'est un film tourné en noir et blanc, dans un format large, et qui à travers ça rend un peu flou la frontière entre le documentaire et la fiction. Donc Trio sort le 16 septembre dans les salles obscures. Après les documentaires, place au film d'animation. Et là, nous sommes le 23 septembre. Thank you. Ailleurs, qui vient de Lettonie, est écrit, produit et réalisé par Gins Zilbalodis, qui signe là son premier long métrage en animation 3D. En plus de la réalisation, il occupe les postes de directeur de la photographie, de monteur, s'occupe de la direction artistique. Bref, Ailleurs est un film entièrement indépendant qui obtient le prix Contre-champ au Festival du film d'animation d'Annecy en 2019. La première image montre un jeune garçon pendu à un arbre par son parachute, et alors qu'une silhouette noire s'avance vers lui, il s'échappe et part se réfugier dans une caverne paradisiaque dans laquelle la créature ne peut entrer. Là, il trouve une moto et une carte qui lui indique une route à suivre. Le jeune garçon décide de braver la créature qui lui barre l'entrée de la caverne pour partir à l'aventure. Avec une animation fluide en format large, Gins Zilbalodis compte un récit initiatique sous la forme d'un film d'aventure teinté de fantastique. La narration alterne des passages poétiques qui convoquent des lieux, des situations et des animaux insolites, avec des passages plus sombres, des séquences plus oniriques ou des visions carrément cauchemardesques. Avec le parti pris de faire un film entièrement muet, il s'en dégage d'une certaine mélancolie et Ailleurs peut se voir comme une parabole sur la dépression ou l'avènement à la vie. Gins Zilbalodis opte alors pour une narration qui alterne des passages d'action avec des moments plus contemplatifs sans que le rythme ne baisse. Avec un certain souffle, le récit distille des moments de suspense, notamment lors d'un final épique. Le film pâtit cependant sa conception par ordinateur, les traits se font parfois réalistes et à d'autres moments un peu moins précis avec une texture de l'image qui trahit un peu son origine numérique. Ses défauts sont moindres face au travail abattu par le réalisateur qui varie sa photographie selon les tonalités du film, traduisant ainsi les différents états d'esprit du jeune héros, ses doutes et ses peurs. Vous l'avez compris, Ailleurs est une excellente surprise, un film d'animation qui s'adresse autant aux petits qu'aux plus grands. On reste dans le domaine de l'animation, mais on reste un petit peu encore en Lettonie, avec Balade sous les étoiles de Lisette Upite, Anastasia Melikova, Jöns Melgren, puisqu'il s'agit d'un programme de 49 minutes qui regroupe des courts-métrages de France, de Belgique, de Russie, de Suède et donc aussi de Lettonie. Dans ce programme, il y a donc 6 courts-métrages différents. Il y a Promenade nocturne de Lisette Upite, où on suit un père et son fils qui vont se balader la nuit dans la forêt. On s'y croirait notamment grâce à un travail sur le son qui est très réaliste. On entend les feuilles bruisser sous leurs pas, la flamme de la bougie crépiter. Il y a des courts-métrages plutôt narratifs, mais il y a aussi des courts-métrages plus abstraits où ce sont des formes, où on s'attache à faire des formes avec les étoiles dans le ciel. Ensuite, il y a Elsa et la nuit de Jöns Melgren, qui est beaucoup plus narratif, hein, qui raconte l'histoire d'Elsa. Elsa, elle a peur du noir, elle a peur de la nuit, elle a peur de s'endormir. Elle passe ses nuits à essayer de ne pas dormir. Et un jour, elle découvre, cachée sous son meuble, la nuit elle-même qui se cache sous son meuble. Elle va devenir amie donc avec la nuit. Elle va lui raconter son histoire quand elle était amie avec un éléphant. J'ai une petite préférence pour Nuit Chérie. Nuit Chérie qui raconte l'histoire d'un ours insomniaque, d'un ours qui n'arrive pas à hiberner parce qu'il est insomniaque et qui se retrouve à se balader la nuit avec un petit singe blanc au pays où on entend un yéti hurler au loin. Et donc c'est un court-métrage que je trouve plutôt très poétique, que j'aime beaucoup, entre le fantastique, le surréalisme et la poésie, et que je recommande vivement. Et dans le genre aussi, encore dans le genre complètement surréaliste, il y a Mouton, loup et tasse de thé, alors qui est entre la narration et l'abstraction, où les loups ne sont pas ce qu'on croit et les moutons non plus, en fait. Voilà, où il y a une inversion des rôles. C'est un court-métrage assez étrange, assez abstrait, rempli de symboles différents, de délires vraiment étranges. Je recommande donc vivement ce programme de court-métrage d'animation Balade sous les étoiles qui nous montre différents aspects de la nuit, qui nous montre différentes façons de vivre la nuit, de la mettre en scène. Par contre, ça s'adresse à partir de 5 ans. C'est plus pour les petits, mais bon, je pense que tout le monde peut prendre plaisir, tous les âges peuvent prendre plaisir devant ce sympathique programme.
Tout le monde roupille. Qu'est-ce que c'est ? fait, je crois que je suis content de pas dormir.
C'est magnifique.
On change complètement de registre, hein, on reste à la, aux sorties du 23 septembre, on change complètement de registre avec Blackbird, un long métrage de Roger Michel, avec Suzanne Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska. Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d'une même famille se retrouvent avec Jennifer, l'aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier, atteinte d'une maladie dégénérative incurable. Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l'épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche. Roger Michel est plus connu pour son film Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant. Et là, avec Blackbird, comme son sujet l'indique, il s'éloigne bien de la comédie romantique. Il s'agit donc d'un drame intimiste où on parle beaucoup. En fait, Blackbird ne brille pas par sa mise en scène, que je trouve très théâtrale malgré l'utilisation du cinémascope. Et dans ce décor sophistiqué d'une grande maison de campagne baignée dans une chaude direction de la photographie, le scénario se déroule avec ses scènes attendues et une écriture un peu surfaite. Bien sûr, le film traite bien de la thématique de l'euthanasie, de l'acceptation par les proches d'une telle décision, mais sur une tonalité très bourgeoise, lénifiante, larmoyante. Bref, le film, moi, il m'apparaît bien vieillot et ça a été quand même un peu une torture. Le 30 septembre, hein, la semaine suivante, on change de tonalité avec Cagillionnaire de Miranda Julie, avec Richard Jenkins, Evan Rachel Wood, Debra Winger et Gina Rodriguez. Teresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d'Old Dolio. Bon, cagillionnaire, c'est un terme anglais en fait qui désigne de façon humoristique une personne qui est très riche, voire très 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 riche. Alors ici, bien sûr, il est utilisé de façon plutôt ironique, étant donné que le film suit une famille de marginaux totalement dénués de scrupules et prêts à tout pour gagner un peu d'argent. Il faut l'avouer, le couple formé par Richard Jenkins et Debra Winger est assez antipathique, ce qui n'aide pas beaucoup à apprécier le film, qui n'est pas inintéressant sans pourtant être exceptionnel. Seulement, le scénario s'attache plus au parcours de leur fille, Old Dolio, élevée sans amour, dans le matérialisme le plus total. Le film de Miranda Julie avance alors comme une critique d'une société de consommation où l'on attache plus d'importance à l'objet et à l'argent qu'à l'individu lui-même. Finalement, de ce consumérisme insatiable, on ressort ce sentiment insidieux de solitude. Cagillionnaire parle d'amour filial, de la façon dont on considère ses enfants, quelle place on leur donne et comment on leur montre de l'affection. Le ton se partage entre le drame et la comédie dans une réalisation soignée, mais que je trouve plutôt plan-plan. Hein. Il y a une belle scène, celle du piano, qui définit bien chacun des personnages principaux, mais le reste, tout en étant sans temps mort ou digression, est exécuté sans génie. C'est bien fait, c'est agréable à regarder, mais... Bon, mis à part le fait que les deux personnages principaux, interprétés par Richard Jenkins et Debra Winger, sont vraiment antipathiques. Tout n'est pas acheté dans ce film, évidemment, hein, mais c'est un film qu'on oublie le lendemain, quoi. On a passé un bon moment, plus ou moins un bon moment, suivant à qui on s'attache dans le film. Ce que je retiens surtout, c'est donc cette scène au piano. Et ce plan de fin, un travelling arrière, le film donc se conclut sur un beau baiser de cinéma qui montre que l'amour ou l'affection est le meilleur des remèdes au matérialisme.
Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fare? Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home.
Nous terminons avec l'agenda. Au cinéma d'Agnès Varda à Beauvais le 13 septembre, vous pourrez découvrir à 16h30 Dans un jardin qu'on dira éternel de Tatsushi Omori. La séance sera suivie d'une dégustation de thé. Pour les plus petits, le mercredi 16 septembre à 14h30, une séance ciné-dansée avec la projection de Dreams, un film d'animation danois de Tony Zink et Kim Egan Jensen, qui sera suivi d'une chorégraphie avec les personnages du film. Enfin, toujours au cinéma Agnès Varda, le 1er octobre à 20h30 sera projeté Elephant Man lors d'une séance ciné-conf en présence de Vincent Baticle, qui enseigne l'esthétique du cinéma à l'École supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Tours et au BTS audiovisuel à Saint-Quentin. Il évoquera les dessous du tournage de ce film de David Lynch. Le cinéma Paradiso de Noyon organise l'avant-première le dimanche 6 septembre à 16h, La Daronne, un film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. Donc avis aux plus courageux, parce que Jean-Paul Salomé, c'est quand même quelque chose. Hein. Enfin, au Ciné Saint-Leu, deux événements marquent cette rentrée cinématographique. Tout d'abord, et là je vais pousser un coup de gueule, tout d'abord le mardi 8 septembre à 20h, une soirée Nanar Festival, en partenariat avec l'association Bulldog. Une soirée avec une projection de court-métrage réalisée pour l'occasion pour être des nanars suivis de la projection de Star Crash de Luigi Cozzi.
Two warring factions, our own, and the one ruled by the evil Count Zarthan from the League of the Dark Worlds.
The Count has created a weapon so vast, so huge, that it would take a whole planet to conceal it. You must sail to the haunted stars. Find the Count's secret planet and destroy it.
J'avoue que l'incompréhension me prend, car on ne fait pas un film, on ne fait pas un nanar. Un film devient un nanar. Le résultat donne un nanar, mais on ne se dit pas, tiens, je vais réaliser un nanar. Pour moi, c'est une vision assez condescendante du cinéma. Et surtout, Star Crash n'est pas un nanar. Star Crash est un film de science-fiction, le premier long-métrage de Luigi Cozzi, un film de science-fiction qui met en scène Caroline Munro, Joe Spinell, Christopher Plummer et David Hasselhoff, déjà permanenté. C'est un film qui est fauché, mais qui est soigné. C'est un cri d'amour au cinéma. C'est un cri d'amour au vieux film de SF des années 50. C'est aussi un film qui se démarque de Star Wars. Évidemment, c'est un peu naïf, mais c'est quand même soigné. Le jeu d'acteur est approximatif, hein, ils sont pas très bien dirigés, mais il y a de l'humour. Mais on ne peut pas dire que Star Crash soit un nanar. Je suis désolé, mais Star Crash n'est pas un nanar. C'est donc un hommage au cinéma de genre, au film de Star Wars, avec des effets spéciaux qui rappellent les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Mais Star Crash, c'est vraiment un film sympathique, mais en aucun cas un nanar. Et imaginez que des gens vont aller le voir dans l'idée de se gosser, parce que le film, évidemment, n'a pas la qualité d'image, de réalisation, de montage qu'un Marvel, qui est pour moi complètement impersonnel. Ça m'énerve un petit peu, parce que Star Crash, au moins, il a une personnalité, il a quelque chose, et moi j'aimerais bien voir plus de films comme ça aujourd'hui. Il faut signaler aussi que Star Crash vient de sortir dans une belle édition DVD BR qui propose les deux montages du film, le montage italien et le montage états-unien, et qui propose aussi d'excellents bonus qui éclairent un peu sur la réalisation de Star Crash, sur la personnalité de Luigi Cozzi, sur la réception du film, des bonus très intéressants réalisés avec une certaine originalité. Et donc c'est sorti aux éditions Extra Lucide Film, une nouvelle boîte d'édition de DVD BR qu'il faut soutenir absolument, qui édite des films plutôt intéressants comme The House on Sorority Row et d'autres films comme Séjour de Oliver Stone, le premier long métrage d'Oliver Stone. Je vous invite à vous ruer sur cette belle édition de Star Crash chez Extra Lucide Film, éditeur que je compte aborder le mois prochain. Si tout va bien, on en saura un peu plus sur cet éditeur, sur ses différentes sorties. Pour finir, toujours au Ciné Saint-Leu, le 17 septembre à 20h15, on peut assister à l'avant-première de Joseph, un film d'animation signé Aurel. C'était Thomas Roland, vous étiez à l'écoute du cinéma. Si vous voulez m'écrire, me suggérer des choses ou quoi au caisse, vous pouvez m'envoyer des mails à loupgaroupicard@gmail.com. Loupgaroupicard en un seul mot. Sur ce, à la prochaine.